Donc, bien crédule, celui qui croit déceler sous la peau parcheminée du personnage romanesque une personne réelle, sans référent unique, sauf lorsqu'il s'agit d'un personnage historique ou encore de sujet autobiographique, encore que des fois c'est un peu plus complexe, le personnage de fiction se lit pour l'habitant du réel comme un signe défaillant qui ne renvoie à rien, cependant que ce même signe est tout à fait opératoire dans l'univers diégétique dans lequel il s'insère. Unité d'un système, comme le théorise Philippe Hamon, le personnage de fiction est progressivement construit par l'œuvre dans laquelle il apparaît, chaque texte possédant son propre code et établissant une saine dénonciation selon des règles qui sont circonscrites et validées à même leur énonciation. Par le texte et dans le texte, pour être un peu biblique, le personnage acquiert ses qualifications et caractéristiques actantielles et morales, donc être un héros, un traître, un idiot, être vaillant, bref. C'est-à-dire qu'on lui fabrique un référent, uniquement admissible dans l'univers de fiction dans lequel il s'insère. Néanmoins, et Hamon le note d'ailleurs, je le cite, « cette accentuation en ce qui concerne le personnage sera, de plus ou moins prédéterminée par une série de codes culturels. Très souvent, ce sera la participation à un espace moral privilégié, culturel, qui le distinguera. » Fin de la citation. Un texte littéraire, bien qu'il puisse constituer un système sémiotique autonome, n'en demeure pas moins le produit, je cite encore une fois Hamon, d'un processus intentionnel de communication. C'est-à-dire qu'il est soumis à un contexte d'énonciation et de réception qui se modifie selon les lieux et les époques, d'une part, et à une motivation morale, éthique, politique qui excède la diégèse, d'autre part. La valeur et les qualités accordées aux personnages sont ainsi définies tant par un processus différentiel interne à l'œuvre et à l'univers de fiction, que par une intention et une évaluation, imposée et proposée par des éléments provenant du monde extra-diégétique. Si la première opération vise à garantir la cohérence de l'univers diégétique, la deuxième cherche à pallier la déficience référentielle du personnage signe par l'octroi de qualités issues non pas de son monde à lui, mais d'une autre. Tiré hors de la fiction, il devient le représentant d'un comportement et de valeurs admirables ou répréhensibles, le modèle à reproduire ou non d'une manière de circonscrire, par des actions et des paroles, un vivre ensemble et un mode d'être en communauté. Cette sortie du personnage romanesque de la fiction sert donc une sorte d'herméneutique du réel, et surtout d'un devenir sujet, en tant que ce dernier se forme, selon le sociologue Danilo Martuccelli, dans un processus qui passe par une prise de rôle dans le cadre d'une interaction. Le personnage, à la fois comme être agissant dans l'univers de fiction et unité sémiotique acquérant sa définition de sa mise en relation avec les autres signes, incarne alors le paradoxe du sujet. Unique en tant que soi, kypséité, dirait Ricoeur, cependant que la reconnaissance de cette unicité dépend toujours des autres. Sa singularité, donc ce qui le caractérise, son rôle, ne peut en effet être attesté qu'en rapport à cet autre qui lui permet de dire « je », mais surtout qui lui dit « tu ». Et en parle à un tiers comme d'un « il », alors inséré dans un récit où qualité et fonction lui sont assignées bien malgré lui. Le soi devient alors sujet, c'est-à-dire en l'occurrence assujetti à être personnage dans des fictions construites par d'autres. Le roman ne ferait alors, par l'entremise d'un personnage construit par une narration toute puissante, que reproduire pour toujours la briser, et en cela il a été relié par la psychanalyse, entre autres. Donc le roman reproduit pour toujours la briser l'illusion largement partagée de l'autonomie et du pouvoir du « je » sur le devenir soi-même, sur son processus de subjectivation. Critiqué par tous et depuis longtemps parce qu'on l'a utilisé à des fins idéologiques et morales, ou encore parce qu'il participait à la réduction de l'homme, qu'il n'est pas, faut-il le rappeler, à sa simple psychologie, le personnage romanesque connaît depuis une trentaine d'années, dans l'autofiction, un nouvel emploi qu'on pourrait qualifier de « contre-naturel ». Il sert à court-circuiter les fictions construisant un sujet qui refuse de se laisser compter par d'autres. En somme, le personnage devient le seul dispositif narratif à la portée d'un « je » pour reprendre le contrôle sur son identité narrative, pour cesser d'être, et je reprends ici le titre d'un roman de Chloé Delhomme, « Une femme avec personne dedans », un signe sans référent, un morphème vide, comme le dit Hamon. Emploi contre-naturel, disais-je, puisque pour éviter d'être fait personnage, d'être piégé dans l'histoire d'un autre, dans un rôle qui ne lui satisfait pas, le jeu se projette lui-même comme personnage d'une fiction, mais cette fois-ci élaborée par lui-même. Le jeu cherche à arriver, au terme du récit, à se reconnaître dans ce personnage, à pouvoir dire « je » et que ce pronom corresponde tout à la fois au signe maintenant rempli qui appartient au système du texte, au « je » qui a pris en charge le récit et à la fiction qui forme l'identité narrative de ces deux « je ». Auto-fiction, parce qu'il s'agit moins d'insérer dans un récit censé véridique des éléments inventés que de générer sa propre fiction, son propre récit de soi pour arriver à dire « je ». La fiction comme processus d'apparition du sujet et non comme tactique de camouflage additionnel. La proposition auto-fictionnelle de Chloé Delhomme, notamment dans le diptyque composé par Le cri du sablier et Dans ma maison sous terre, mais tous ses livres participent d'un même projet, et l'autobiographie impersonnelle Les années d'Annie Ernaux, me semble s'accorder à cette idée de la subjectivation par la transposition de soi en personnage. Les deux écrivaines font de l'écriture l'outil premier d'une définition d'un jeu mouvant, en procès, d'un jeu qui, sans nier qu'il réagit à certains tropismes, ne répond pas uniquement d'un donné lui préexistant, qui n'est pas un personnage inséré dans des histoires commencées bien avant sa naissance et écrites par d'autres que lui. La mise en danger de l'identité par la transformation de la personne en un signe jeté dans l'éprouvette du récit est la condition essentielle pour son émancipation des fictions imposées et sa recomposition comme possibilité d'être. Je cite Chloé Delhomme, « Je ne suis pas même dans l'œuvre, juste dans la recherche. Non pas cobaye, mais sujet d'expérimentation littéraire, le personnage auto-fictif redonne au jeu une virtualité perdue au profit de la narration ambiante. Il lui offre une singularité à construire plutôt qu'une subjectivité niée par des fictions collectives, familiales, la religion, le consumérisme, le spectaculaire, qui fragmentent et dégauchissent cette subjectivité pour qu'elle s'insère dans un cadre narratif qui tente à ignorer les particularités de chacun. Les fictions à déconstruire sont nombreuses et Delhomme et Ernaux se sont attelés à la tâche de manière bien différente. Si pour la première, l'écriture entre en relation étroite avec la vie au point d'en provoquer des événements, pour la seconde, elle sert plutôt une élucidation de l'expérience du présent et donc de ses différentes fictions, donc du présent d'une génération au sein de laquelle elle isole pour toujours l'y réinscrire un parcours singulier qui est le sien. Or, toutes deux s'engagent dans une lutte à finir avec un discours officiel qui cantonne le sujet dans un rôle qu'il n'a pas demandé à jouer. Pour Delhomme, ceux, avec la majuscule, de l'enfant et de la petite, puis de la grande et la connasse, la folle et la pétasse, comme elle l'écrit dans Le cri du sablier. Chez Ernaux, ce rôle est celui partagé par ceux dont la voix ne porte pas dans l'espace public, se rejeter de l'espace discursif par l'ordre du discours en place. Les invisibles, les silencieux, autant dire ceux qui n'appartiennent ni à la classe dirigeante, ni au monde médiatique, ni à la fabrique désignée du savoir. La mise en personnage de soi-même dégage ainsi un espace narratif où l'individu contemporain peut réagir au storytelling ambiant qu'il cantonne par une rhétorique efficace carburant à l'antiphrase et au pathos dans le rôle du niais crédule et aisément manipulable. Délaissant le personnel du mauvais roman néo-réaliste qui lui sert de fiction familiale, Delhomme reconstruit le récit de son enfance sur le mode d'une tragédie. Prenant le contre-pied des règles prosaïques et informationnelles du discours contemporain, en usant très souvent d'un alexandrin prosifié, Delhomme se met dans la position de la victime de la violence des autres. Voici son moment fondateur. C'est dans Le cri du sablier. Le jour de l'expulsion, les parents constatèrent avec dépit la présence incongrue du doublon chromosome et renoncèrent à tout effort d'appellation. Durant 48 heures, le nourrisson ne fut personne. Non voulu parce que fille et innommée, la voilà déjà au sortir du ventre de sa mère, personne, c'est-à-dire personnage rejeté d'une fiction, celle où un garçon naissait, qui demeurait-elle? Or, cette violence par laquelle on lui refuse d'habiter le réel n'est pas que celle du père qui, en plus de la battre, lui jure qu'un jour il la tuera. Elle est le fait d'une famille entière qui, par euphémisation et mensonge au sujet des événements qui forment la vie de tous les jours, des rôles et des pouvoirs de chacun, violente le réel lui-même. C'est la mère qui oblige la petite à réciter des leçons apprises pour impressionner ses amis et paraître une bonne mère attentionnée, ce qu'elle n'est pas. C'est surtout le déguisement de la vérité permis par le détournement de la langue. Je la cite encore une fois, Le cri du sablier. « J'avais bien une amie avant l'assassinat. Il disait l'accident, et c'est aussi pour ça que je les ai haïs. » Le mensonge suprême est toutefois celui qui porte sur l'ascendance de Delhomme, mensonge qui lui a été révélé plusieurs années après le drame familial. Je rappelle le drame, son père a tué sa mère devant ses yeux avant de retourner l'arme contre lui, après l'avoir pointé quelques secondes sur la fillette, parce qu'elle était là. Voilà. Donc voilà, on lui révèle le mensonge. qui était pas le drame familial, mais le mensonge qui préside à son existence. Bref, c'est sa cousine qui lui dit, et elle le relate dans Ma maison sous terre, Sylvain n'est pas ton père. Non seulement Delonde se trouve prisonnière de l'histoire que les autres lui ont imposée après la mort de ses parents, mais l'histoire qu'on lui donnait pour vraie, ta mère est ta mère et ton père, fondement de son identité et de sa névrose, est elle aussi mensongère. D'un seul coup, par le biais de cette simple phrase, Delonde n'est plus seulement un personnage, elle revient à l'état primordial, celui des premiers instants de sa vie, être personne. Les bases de la fiction qui lui assignaient une place et une identité ont été détruites. Je la cite encore, j'étais la fille d'un assassin et me voilà, moins que ça encore, j'étais la fille d'un suicidé, à présent ce que je suis, dites-le-moi. Cette annonce signe la dispersion du moi qui n'a soudainement plus de support narratif et identitaire. En même temps, elle provoque sa libération et sa mise en action, puisqu'il faut maintenant à la jeune femme écrire une fiction nouvelle, un nouveau système différentiel dans lequel l'ancienne fiction et le vieux personnage-je deviendront les opposants permettant au nouveau personnage d'en arriver, au terme du processus d'invention de soi, à dire je. C'est d'ailleurs ce qui arrive, son dernier livre publié, on sent qu'elle en a fini avec le personnage de Chloé Delhomme qui va passer même sur son site internet où elle fait état de ses différents projets littéraires et elle annonce être passée à autre chose, à une sorte de sorcellerie, en tout cas, on verra bien ce que ça donnera. Mais en retournant au Liban sur la terre de son père, finalement, et devant sa tombe, elle a comme bouclé la boucle de cet épisode-là traumatique et de l'invention de soi par le fait même. Donc, l'autofiction s'est imposée à Chloé Delhomme lorsqu'elle a tout d'un coup vu la place qu'elle occupait dans une fiction composée par d'autres. Mais qui était la seule qu'elle possédait, s'effacer lors du dévoilement de sa vérité, à savoir qu'elle est précisément une fiction. Le défaut d'une place à occuper dans le récit admis est également l'une des motivations d'Annie Ernaux pour l'écriture de ce qu'elle appelle une autobiographie impersonnelle. Ernaux fait la démonstration dans les années que la vie individuelle, et plus précisément l'évolution de l'expérience du temps d'une femme née au début des années 40, n'apparaît nulle part dans le récit officiel de sa génération. Qu'un certain nombre de sujets, tant humains que culturels et historiques, ont été privés d'un rôle ou d'un sens dans cette histoire. Je la cite. À chaque moment du temps, à côté de ce que les gens considèrent comme naturel de faire et de dire, à côté de ce qu'il est prescrit de penser, il y a toutes les choses sur lesquelles la société fait silence et ne sait pas qu'elle le fait, vouant au mal-être solitaire ceux et celles qui ressentent ces choses sans pouvoir les nommer. L'autobiographie impersonnelle vise, en déguisant le jeu des atours d'un elle, à réunir dans cette non-personne, comme le disait Benveniste, tous ceux qui ne sont pas apparus dans le récit officiel de leur époque, qui n'y ont occupé aucun rôle, qui n'en ont pas été officiellement des personnages. En transformant son jeu en elle, Ernaux cherche à transcender une solitude personnelle par la réunion, dans ce pronom ouvert, de tous ceux qui sont sans histoire. Bien que ce elle lui corresponde, là il y a la phrase qui l'atteste, elle est cette femme de la photo et peut, quand elle la regarde, dire avec un degré élevé de certitude, c'est moi. Donc bien que ce elle lui corresponde, l'effacement du moi derrière le elle au moment même de son apparition suggère que l'achèvement du processus de subjectivation importe moins ici que le combat mené contre le silence de ceux qui parlent fort, combat que chacun devrait livrer en nommant les choses, en se nommant, tout en se gardant de créer de nouveaux silences. L'usage dans les années des photographies comme moteur du récit de soi permet d'éviter un tel bâillonnement parce qu'il institue une dynamique référentielle où le personnage signe s'oppose moins à d'autres personnages qui forment dans les années des groupes bien définis, eux et nous, qu'à lui-même, je la cite. À cette sans cesse autre des photos correspondra en miroir le elle de l'écriture. Ce elle rassemble donc tout à la fois la laissée pour compte du récit social, le moi écrivant et l'écriture elle-même. Le geste et le présent autographique sont un lieu nouveau où ces noms se prennent forme, par et dans le langage, le sujet et le discours personnel par lequel il se construit comme tel. Alors que Delonde s'écrit de manière performative, qu'elle donne une consistance réelle au personnage de fiction qu'elle devient et qui devient-elle livre après livre, au point de l'inscrire à l'état civil pour faire disparaître son identité précédente, Annie Ernaux effectue le mouvement inverse en versant le moi dans la fiction, en le faisant disparaître, aussitôt apparu, sous la cape d'un personnage. Si l'entreprise autofictive de Delonde peut être décrite comme un processus de subjectivation, c'est-à-dire comme la constitution, par l'entremise ici de la fiction et d'écriture d'un sujet de l'histoire, unique et maître de son identité narrative, le recours au personnage H et Ernaux l'effet contraire. La dissolution du moi dans le L, une fois l'identification établie, couplée à la succession des sections où le L de l'écriture, soit la narration, se fait rassembleuse et collective en adoptant, par le recours au nous et au on, le point de vue d'une génération, provoque une désubjectivation partielle où le moi n'est plus tant elle que l'une d'elles, l'exemple d'un parcours singulier qui, en même temps qu'il lui est propre, pourrait correspondre à quelques éléments près à celui de n'importe quelle femme née dans les années 40 en France. Ça va sans dire. Le moi trouve cependant sa puissance singulière et son unicité dans la configuration narrative de sa trajectoire identitaire, dans l'écriture, la recherche de l'histoire qui à la fois lui est propre et qu'elle a en partage avec d'autres membres de sa génération. Le personnage autofictif est une proposition de composition de soi-même par le biais de la littérature. Il s'agit d'inclure le jeu dans un système sémiotique où son sens est à construire par ce personnage signe lui-même dans un processus différentiel où les autres systèmes de signes, c'est-à-dire les autres fictions de lui, sont les opposants. Ernaux et Delhomme donnent l'exemple de l'un des supports possibles et rendu par elle disponible d'un devenir autre, nécessaire au devenir soi. L'identification du lecteur au personnage autofictif n'est pas l'objectif souhaité puisqu'il devient alors suggestion à une nouvelle domination narrative. Il peut même mener à la destruction de l'être, comme l'expose Delhomme précisément dans « Une femme avec personne dedans ». L'exemple à suivre est plutôt celui d'une prise en charge par un jeu de sa propre narration. Il faut, et je cite encore une fois Delhomme, « remettre le jeu en circulation », en faire une donnée collective que chacun peut s'approprier à sa guise. Le jeu ainsi redéployé par l'autofiction permet au sujet de s'émanciper des fictions qu'il contraigne et surtout de s'inscrire dans un monde où il n'est pas seulement un signe dont le sens lui échappe, mais un acteur qui participe à sa réécriture. Faire de soi-même un personnage ne représente donc pas uniquement un mentir vrai soutenant une quête souvent perçue comme narcissique par les détracteurs de l'autofiction. Il s'agit d'une manière de refuser le clivage imposé, puis souvent nié entre le personnage social et le soi, de configurer des communautés narratives dans lesquelles le rôle et les actes du jeu ne sont pas prévus, de se redonner à soi-même comme à d'autres la possibilité de s'inventer et de réinventer le monde dans lequel il souhaite s'insérer. Si dire c'est faire, transfuser le jeu réel dans la fiction, bref, s'écrire, est un acte revendiquant un nouveau partage du discours et une appropriation des modes de subjectivation dès lors exemptés, ce qui ne veut pas dire que le jeu en soit inconscient, des narrations préalables. Il faut créer un sujet inédit, parce que jusque-là non énoncé, dans une fiction qui, par sa simple énonciation, s'impose comme la seule désormais valable. Merci.